Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Salut, c'est Andrea Brusque. Avant de commencer cet épisode, je voulais vous parler du podcast d'histoire d'amour de Bababam, À la folie, pas du tout. Connaissez-vous la face cachée des couples les plus célèbres de notre époque? Elvis Presley et Priscilla Beaulieu, Pamela Anderson et Tommy Lee, ou même Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy. Dans chaque saison, on découvre l'envers du décor des histoires d'amour. Car même chez les stars, l'amour n'est pas toujours rose. Rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et plongez dans les plus beaux moments d'amour, comme dans les pires. On les distingue à peine dans la nuit noire, mais les baies vitrées sont bien là, au loin, tout contre l'ombre. Droites, résolues, inflexibles, elles tiennent face aux assauts continuels du vent glacé. Le château se dresse comme un phare gigantesque, une muraille de lumière dans l'obscurité. À l'intérieur, on dirait que les fantômes ont repris possession des lieux. Que les monarques du passé sont descendus de leurs portraits pour parader comme jadis dans les galeries d'or. C'est un enchantement comme il n'en existe que dans les livres pour enfants. Il n'y a que dans Cendrillon, Blanche-Neige ou La Belle au bois dormant que les châteaux prennent vie d'une telle manière. Chandeliers d'argent, serviteurs, musiciens, danseurs, danseuses, robes étincelantes et bijoux de prix, invités de marque venus du monde entier. Ce soir-là, il se donne au château de Versailles une fête comme seul peut en donner la cour de Louis XIV. Seulement, le roi Soleil est mort depuis 3 siècles. Nous sommes le 9 mars 2014. Ce soir-là, Versailles accueille l'anniversaire des 15 ans de l'alliance Renault-Nissan, l'un des partenaires les plus prospères de l'histoire du secteur automobile. Formée en 1999, l'association des deux constructeurs a progressivement conquis les 5 continents pour devenir l'un des plus gros cadors du marché mondial. Et ce succès, l'alliance le doit à un homme en particulier, Carlos Ghosn. Né au Brésil en 1954, météore de l'industrie automobile en France, Carlos Ghosn a rejoint le groupe Renault en 1996 en tant que directeur général adjoint à l'âge de 42 ans. C'est à lui qu'est confiée la présidence de Nissan lors de la création de l'Alliance 3 ans plus tard. À l'époque, le constructeur japonais est au bord de la faillite et cumule 20 milliards de dollars de déficit. Cette dynamique catastrophique, Ghosn va réussir à la renverser totalement. En à peine 4 ans, le groupe cumulera 15 milliards de bénéfices. Encensé au Japon, admiré par ses pairs et jusque dans les plus hautes sphères politiques, Carlos Ghosn devient l'un des patrons les plus influents du monde. Cependant, et contrairement à ce que la fête grandiose de Versailles en 2014 aurait pu laisser penser, le fabuleux destin de Carlos Ghosn n'a finalement pas pris la trajectoire d'un conte de fées, et il se pourrait même que le roi majestueux ne soit en fait le dragon de l'histoire. Le 19 novembre 2018, à la surprise générale, Carlos Ghosn est arrêté et emprisonné sans attendre à Tokyo dans l'attente de son procès. On l'accuse d'abus de biens sociaux, de blanchiment et même de corruption. Accablante pour l'homme d'affaires franco-libanais, les investigations font état de pratiques très opaques. Et l'organisation de l'anniversaire à Versailles va par exemple se révéler sous un jour particulièrement suspect. C'est le début d'un feuilleton digne des plus grands films d'espionnage. Mais cette fois-ci, la réalité va même dépasser la fiction. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons aux anniversaires les plus sensationnels de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'affaire Carlos Ghosn, dont les conséquences dépassèrent largement les sphères de l'industrie automobile pour gagner celle autrement plus dangereuse de la diplomatie internationale. le ciel gris vire au noir. Et dans les buildings, des lumières apparaissent l'une après l'autre à mesure que la nuit tombe sur Tokyo. L'ancien roi n'est plus. Le voilà maintenant prisonnier de la plus haute salle, de la plus haute tour. C'est derrière une vitre qu'il contemple la capitale du pays qu'il avait propulsé jusqu'au sommet. Depuis près de 30 ans, Carlos Ghosn fait le tour du monde chaque semaine, au point que ses collaborateurs parlaient de son emploi du temps comme d'un agenda gravitationnel. Aujourd'hui, toujours perché dans un gratte-ciel, il est en réalité cloué au sol en résidence surveillée, avec l'interdiction formelle de quitter le territoire japonais. Le moindre de ses déplacements est scruté par la police, tandis qu'une armée de journalistes le harcèle quotidiennement. Il ne peut pas parler à sa femme ni à ses enfants. Ses journées se bornent à rencontrer ses avocats dans une salle de réunion qu'il loue à l'hôtel Grand Hyatt. Pour le reste, quelques rares amis lui rendent visite et c'est à peu près tout. Ne serait-ce qu'obtenir d'être placé en résidence surveillée et non en prison a demandé des mois de négociations acharnées et une caution de 6 millions d'euros. L'ex-PDG de Renault-Nissan n'est pas de nature à s'avouer vaincu, bien au contraire. Mais il doit désormais se débattre tous les jours avec une inquiétude grandissante. Celle de ne pas faire l'objet d'un procès équitable. Car au Japon, lorsqu'une enquête va jusqu'au procès, l'accusé est jugé coupable dans 99% des cas. Comment en est-il arrivé là ? Sa réputation d'homme d'affaires brillant et irréprochable se fissure un peu plus chaque jour, laissant voir les éléments troubles de son passé. À ce moment-là, la presse identifie trois moments clés pour expliquer sa chute. D'abord, en 2007, après le départ de l'historique Louis Schweitzer, il était convenu que Ghosn prenne la présidence de Renault et de Nissan pour seulement quelques mois, le temps de trouver un nouveau patron pour la marque japonaise. Ghosn décide finalement d'assumer seul la présidence des deux entités. Il cumule des salaires mirobolants, mais aussi des responsabilités colossales. Pour beaucoup de ses équipes interrogées a posteriori, cette décision l'a plongé dans une spirale de travail, le forçant à voyager sans cesse et le privant d'une vision calme et posée sur le groupe. Durant cette même période, trois employés du siège de Renault se suicident. Mettant en lumière un surmenage généralisé dans l'entreprise et des techniques de management totalement déconnectées de la réalité. Certains salariés travaillent 90 heures par semaine. Enfin, en 2011, l'entreprise française défraie la chronique lorsque trois hommes haut placés dans la hiérarchie sont anonymement accusés d'espionnage industriel et licenciés du jour au lendemain. Ghosn lui-même dit détenir des preuves de leur culpabilité alors qu'il n'en est rien. L'enquête révèle que les trois hommes sont innocents. L'image de l'entreprise est donc sérieusement ébranlée entre 2007 et 2012. Mais très bientôt, c'est le PDG lui-même qui devra rendre des comptes. En avril 2019, tandis que la tempête médiatique continue et qu'il ne cesse de clamer haut et fort son innocence, Carlos Ghosn découvre avec horreur que la télévision japonaise diffuse des images de l'anniversaire de l'Alliance donnée à Versailles 5 ans plus tôt. Et l'opulence affichée est loin d'être le principal problème ciblé par les médias. Sur les 150 invités, 95 sont des membres de la famille ou des proches de Ghosn, pas des collaborateurs de l'Alliance. Coïncidence ? La date choisie pour l'événement, le 9 mars 2014, était aussi la date du 60e anniversaire de Carlos Ghosn lui-même. Dès lors, si cette fête n'était pas celle d'une entreprise mais celle d'un homme, on peut légitimement se demander pourquoi c'est l'entreprise qui s'est acquittée de l'addition de la soirée, près de 600 000 euros. Pour Ghosn, c'est le coup de grâce. Ses explications peinent à convaincre. Maintenant, il n'y a pratiquement plus aucun doute. Le patron le plus puissant du monde va finir sa vie emprisonné au Japon. Dos au mur, Carlos Ghosn décide de jouer le tout pour le tout, l'évasion. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Passé les premiers instants, les minutes et les heures se confondent. Qu'on le veuille ou non, le cerveau analyse tous les sons en boucle. Les pensées deviennent des toupies qui s'entrechoquent indéfiniment. Dans de telles conditions, on n'a de contrôle que sur sa respiration. L'oxygène doit parvenir dans chaque muscle du corps pour freiner l'inévitable crispation. Carlos Ghosn est contorsionné dans une malle à roulette dans laquelle de très petits trous ont été percés pour lui permettre de respirer. C'est tout ce qu'il peut faire, respirer, attendre et espérer. Nous sommes le 29 décembre 2019. Il y a seulement quelques semaines, Carlos Ghosn a décidé l'impensable. Convaincu de faire l'objet d'un complot, il veut tenter l'évasion. Pour lui, c'est la prise de risque maximale. S'il échoue, il n'aura plus aucune chance de terminer sa vie ailleurs que dans une cellule japonaise. Mais pour autant, il n'a pas tergiversé. Entre avoir une chance de revoir sa famille ou mourir derrière les barreaux, il a fait son choix. Le reste appartient à l'histoire. Ce 29 décembre à 14h30, Carlos Ghosn quitte sa résidence à pied et se dirige d'une démarche normale, à visage découvert, vers l'hôtel Hyatt. Jusqu'ici, rien de suspect, c'est sa routine depuis de longs mois. Mais les as de l'évasion le savent, la routine finit toujours par endormir la vigilance des gardiens. Quand il ressort de l'hôtel une heure plus tard, Ghosn est accompagné de 4 hommes et là non plus rien d'inhabituel. L'homme d'affaires ne se sépare pratiquement jamais de ses gardes du corps et pour des voyages de moins de 3 jours, il a le droit de se déplacer à l'intérieur des frontières japonaises sans en demander la permission. Son groupe monte dans un van direction Osaka, où des chambres ont été réservées dans l'un des plus luxueux hôtels de l'aéroport. Après cela, Carlos Ghosn n'apparaîtra plus jamais sur la moindre caméra de surveillance japonaise. Quelque part dans cet après-midi de décembre, il s'évapore. À 21h57, 3 hommes chargés de bagages quittent l'hôtel pour les terminaux de l'aéroport et il n'y a pas de raison de leur prêter d'attention particulière, ce ne sont pas les hommes qui sont entrés avec Ghosn. Se déclarant musiciens, ils embarquent pour un vol privé direction Istanbul. Avec eux, des étuis de guitare, 2 violons et une grande malle à roulette noire qui contient le reste de leur équipement. Si cette malle passe au rayon X, la sécurité verra sans peine qu'à l'intérieur se cache l'un des hommes les plus surveillés du pays. Mais l'équipe de Ghosn a tout prévu. Un ancien des forces spéciales américaines chapeaute l'opération. Il a choisi l'aéroport d'Osaka, l'un des rares au Japon qui ne passe pas systématiquement les bagages en soute au rayon X dans le cadre de vols privés. Il a choisi la date du 29 décembre. L'énorme affluence en cette période de congé sature l'attention des employés. Il a choisi de prendre tous ses risques parce qu'ils ont tous été minutieusement calculés. À l'intérieur de cette malle, à peine plus large qu'un cercueil, Carlos Ghosn a de moins en moins de repères, de moins en moins de contrôle sur sa respiration, de moins en moins de lucidité. Petit à petit, il sombre dans un état de conscience modifié. Les dés sont jetés. Rares sont les hommes qui sont sortis vivants d'un cercueil. Mais Carlos Ghosn est de ceux-là. À l'issue d'un voyage interminable et après une escale à Istanbul, il atterrit à Beyrouth dans la nuit. En citoyen libanais, il ne risque maintenant plus rien. Le pays ne possède pas de pacte d'extradition avec le Japon. Quelques jours plus tard, c'est en homme libre qu'il donne une conférence de presse devant les caméras du monde entier pour expliquer son geste et donner sa version des faits. « J'ai été otage d'un pays que j'ai servi pendant 17 ans. » Coupable ou innocent ? Carlos Ghosn fait encore l'objet de multiples poursuites pour malversations financières au Japon et en France. Il continue de nier la totalité des accusations dont il fait l'objet. Inimaginable, son évasion du Japon ne connaît pas d'équivalent au XXIe siècle. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost, réalisé par Matthew Rock. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.